Gabriel Morière, Gillet et son notaire.
C'est pourtant là. Quand il y a un trou, il y a un trou. Il n'y a plus de trou. Hé, toi, mon pote, viens voir.
Le soldat interpellé feignait de ne pas entendre, mais l'ivrogne insista, s'accrocha à lui comme à une bouée.
Mon pote, tu pourrais pas me dire pourquoi il n'y a plus de trou?
Et il montrait à son camarade le cône blanc d'une tente dont il cherchait vainement l'ouverture.
« Tu es du mauvais côté, fais le tour !»
Il l'emmena par le bras, entr'ouvrit la toile. Une bouffée d'odeurs chaudes et fortes lui souffla à la figure. On ronflait à l'intérieur.
« Voilà, va te coucher !»«
Ben, mon vieux, t'y vois clair, toi !»«
Ah, c'est toi le notaire ?»« Les notaires, tu sais, c'est des vaches. Y en a un qui, sans lui, j'en aurais des ronds. »
Ah, le voleux, c'est des vaches que je te dis. » Et il fit le geste de tordre le cou, puis il se ressaisit un instant. « Je te dis ça, tu comprends, parce que toi, t'es un notaire, mais t'es un frère. Toi, t'es un pote. Tiens, c'est pas encore fermé, j'ai la mal tournée, je paye un litre. Toi, t'es notaire, mais t'es pas vache. Alors, tu sais, moi, les types qui sont pas vaches. » Mais l'autre se dégagea. « Demain, c'est entendu. Ce soir, couche-toi, bonsoir. » Et le notaire poussa Gillet dans la tente et s'éloigna tandis que l'ivrogne piétinait les tibias des copains. Ce service rendu colla à jamais Gillet à son bienfaiteur. Ah, celui-ci n'avait pas affaire à un ingrat. Gillet, sale, avec une peau noirâtre et des poils noirs en épi, approchait de la quarantaine. Il était dans le civil gars de batterie, c'est-à-dire qu'il travaillait dans les fermes au hasard de ses périodes d'activité, coupé de rémission bachique. Ici, dans le dépôt cantonné aux aides, au début de la mobilisation, il traînait comme un chien galeux, oublié aux appels, lent, ahuri, objet des haussements d'épaule du sergent qui le rencontrait, débraillé, loqueteux, traînant ses espadrilles avec indolence. Mais chaque fois qu'il apercevait le notaire, propre et net, fumant sa cigarette ou lisant le journal, il ne manquait pas d'aller s'asseoir auprès de lui et de lui conter des histoires, les souvenirs embroussaillés de son séjour à la Légion et les bêtises qu'il avait faites. Puis il laissait errer ses yeux gris, quasi sans regard, sur le passé. On riait, on s'amusait de lui. Bonasse et paisible comme une bête docile, il faisait des commissions pour l'adjudant, pour les camarades bourgeois qu'il appelait en sifflant, et lui donnait comme récompense un bout de sucre sous forme de tabac. Cette amitié encombrante poursuivait le notaire partout où il se trouvait. Gillet montrait son pote au copain. C'est un notaire, mais c'est pas une vache. Et bon gré mal gré, il emmenait son ami boire chez la mal tournée. Le notaire, de caractère faible et un peu timide, n'osait guère refuser, mais il s'enfuyait le plus vite possible, honteux de s'être assis à côté de cet ivrogne poisseux. Gillet avait la reconnaissance expansive, et un jour que la femme du notaire était venue voir son mari, on vit le trimardeur s'approcher du couple qui passait. Il portait à la main un bouquet de fleurs un peu avachi qu'il avait chipé dans le voisinage et loué avec un cordon de soulier. Tout souriant de sa bouche ébréchée et noire comme un vieux pot, il offrit le bouquet à la dame en disant « Parce que votre patron, c'est un pote, comprenez ?» La femme du notaire était une bourgeoise un peu pincée. Elle accepta, mais elle se hâta d'entraîner son mari qui, pour se débarrasser de Gillet, lui abandonnait le reste d'un paquet de cigarettes. « Tu pourrais mieux choisir tes camarades. Dieu, qu'ils sont mauvais !»« Mais, ma chérie !» Et le notaire s'enfuyait, cependant que, sur le trottoir, une table de sous-officiers riait. Depuis ce jour-là, le notaire s'efforça d'échapper à Gillet. Mais il se laissait parfois surprendre. Comme une mouche qui vous poursuit, Gillet le rattrapait toujours.
« Mon pote, on en boit une, mon pote par-ci et mon pote par-là. »
Et, chose curieuse, il se trouvait toujours un officier ou un adjudant pour être témoin des effusions de l'ancien légionnaire. « Tu sais, ma bourgeoise, elle vient aussi, » dit un jour Gillet en clignant de l'œil. Elle vint, en effet, vêtue d'une jupe effilochée qui traînait sur des talons tournés. Un œil noir encore vif et canaille, une bouche vidée et des chairs flasques. On les enferma par plaisanterie dans une remise. Gillet, d'ailleurs, goûta fort la farce et barricada la porte. Cependant, le sergent Thévenin, étant allé regarder par les fentes des planches, revint tout rouge et l'œil allumé. Ce fut un jeu d'aller voir Gillet vautrer sur la paille avec sa femme. J'en frémissais.
disait Thévenin en racontant la chose, et se frémissait, sans accent aigu, faisait passer un frisson dans son échine. Mais ne voilà-t-il pas qu'on se mit à monter une scie au pauvre notaire à ce sujet ? La femme de votre ami Gilet est-elle encore là ? Laissez tomber de haut le sergent-major. La corvette Pomme ? Eh bien, envoyez le notaire avec son copain, et la femme. Ça ne fait rien, tes clients, s'ils sont tous de cet acabit-là, goyaient les camarades. Le notaire rougissait, impatienté. Il n'était pas accoutumé à ces plaisanteries lourdes et sans gêne. Mais ce qui fut le pire, c'est qu'un soir, sous la baraque de la gare des Aubrais, une voix aigrelette l'accueillit par ces mots, comme il relevait la garde et qu'il préparait sa place dans la paille. « Eh bien, le notaire, s'était-il réussi, cette partie carrée avec Gilet, l'autre fois ? Avez-vous changé de femme ?» D'un bond, il se redressa. « Quel est l'insolent !» Mais la petite voix se tut. Des rires soufflèrent, puis un éclat de gaieté formidable retentit. « Idiot ! » glapit le notaire furieux. « Assez !» cria le sergent, en se roulant dans sa couverture. « Le notaire, ferme ça. On est ici pour dormir. Et puis, vous autres, ça ne me regarde pas ce qu'il fait. Chacun s'arrange comme il l'entend. » Furieux, il allait répliquer, quand ses cris divers, des plaisanteries énormes, grasses, pesantes, jaillirent de tous les coins. Alors il comprit qu'il valait mieux se taire, et il s'en alla dehors sous la lune. Il ne rentra qu'une heure après, alors que tout le monde dormait. Le lendemain, il lui sembla que des rires ironiques le poursuivaient. Il trouvait dans les moindres paroles des allusions blessantes auxquelles personne ne songeait. Mais ce fut Gilet qui fut mal reçu. Comme il s'était approché du notaire sans être vu, celui-ci se leva. « Mon pote ! Ah non, assez ! Fiche-moi la paix, hein ! Je t'ai vu assez ! Va te laver, tu fouette !» Ayant fait cette concession à l'argot, le notaire tourna le dos à Gilet et s'enfuit. Il en fut ainsi désormais, malgré les travaux d'approche du gars de batterie, qui voulait à toute force suivre son pote. Gilet, qui se soignait un peu plus depuis quelque temps, on l'avait vu raser de frais, la capote boutonnée et les mains propres, dame, quand on a un notaire dans ses amis, retomba dans la plus profonde abjection. Et pourtant, de temps en temps, il venait, humblement, vers son pote, déçu comme un bon chien quand l'autre lui tournait le dos. « Mon pote, eh bien, je paye aujourd'hui !» Hélas, le notaire n'entendait plus. Il pressait le pas, serrait les fesses en regardant autour de lui, furtif, craignant d'être vu. Mais comme il fut bientôt promu à la dignité de scribe, il profita de sa situation pour faire inscrire Gilet sur la prochaine liste de départ au front. En ce temps-là, les tours n'étaient pas réglés. Et, au moment de quitter le dépôt, Gilet, écrasé sous le harnais, le fusil entre les jambes, faisait encore de petits signes d'amitié au notaire. « Au revoir, mon pote. Toi, t'es un vrai pote. » Gabriel Morière, Le Petiot. C'était avant la guerre. Avant la guerre, après la guerre, ces mots, comme un mur, divisent le temps, partagent le monde, les souvenirs, les vies. Avant, Mathieu avait 50 ans. Maintenant, il en tient 70 et plus. Ainsi, contre la jambette de la cheminée, les coudes sur les genoux qui se touchent, les poings dans ses joues enfoncées, il semble soutenir sur ses épaules maigres tout le poids de la lourde maison. Les objets de ménage traînent dans les coins et sur les meubles. La poussière couvre les faïences peintes de l'étagère. « Dans le temps, tout ça reluisait, ma bonne, » dit-il à sa vieille. « Dans le temps, un grand vide les sépare de ce passé. Quand ils s'y aventurent, et c'est souvent, ils perdent toute envie d'agir. Si l'un ou l'autre tente de saisir un objet ou une idée, le bras retombe, comme si le nerf était coupé, et la pensée s'enfuit, pareil à l'eau d'un seau percé. Il y avait là deux grands-fils, blonds, rouges, musclés. Il y avait sous ces vastes charpentes de la ferme deux larges garçons dont la force bruyante et brutale gouvernait les gens, faisait marcher les bœufs et obéir le taureau. Ils maîtrisaient la terre, buvaient ferme, mangeaient fort, et dans la maison tout chantait la belle chanson de la vie. Eux, les vieux, qui s'en retournaient doucement vers la faiblesse puérile, souriaient devant ces vigoureux rejets de leur vieille souche.
Ils sont morts là-haut, vers Suippe, l'un après l'autre. La nouvelle en est tombée sur les parents comme un mur qui s'écroule. Et de fait, tout ce qui soutenait leur existence s'est écroulé aussi. L'un avait 27 ans, l'autre 25. Quand il va au puits, dangereux à cause de sa margelle branlante, la même idée passe toujours dans la cervelle du père Mathieu. Il faudra arranger cette pierre, car ce serait dangereux pour les petits. Hélas, des petits, il n'y en aura jamais dans la maison. Ce n'est pas la peine. Non, ce n'est pas la peine d'arranger rien. Ah, que la terre est mélancolique au couchant, et qu'elles sont funèbres ces soirées sans lumière, où l'on se noie dans l'obscurité et le désespoir, où l'on n'est plus, au fond de la cuisine sombre, qu'une insaisissable palpitation de l'ombre. On s'en irait bien tout à fait vers l'ombre éternelle. Il vaudrait même mieux s'en aller. Le voyage n'est pas grand jusqu'au cimetière. Parfois, un sursaut de colère fait tressaillir l'homme, comme un coup de fouet sur une bête épuisée qui se redresse un moment. C'est lorsque vient à passer la fleuriotte. Cesse de traîner, c'est sa faute, à ce rien du tout. Les mâchoires de Mathieu se mettent à trembler, et sous ses joues creuses, des os s'agitent, roulent, tandis que ses doigts se crispent, comme pour saisir quelqu'un à la gorge. Puis il retombe sur son fauteuil de bois, épuisé. Les terres s'encrassent de chiens dents, la prairie est ulcérée de cuscutes. Voici que le toit s'affaisse par endroits, laisse voir ses côtes comme une bête décharnée. À quoi bon s'en colérer? Ça durera bien autant que nous. Ce qui est fait, est fait. Et il radote déjà à 57 ans. Il y a des moments où il ne sait plus où il en est, où sa vision du passé est si forte qu'il parle tout seul, d'une voix bredouillante et basse, comme s'il s'adressait à ses fils, comme si ses deux gars s'asseyaient à ses côtés, devant la potée aux choux. Un instant après, il passe sa main sur ses yeux, et il se réveille avec un « ah » rauque, comme un cri de bête blessée, puis s'en va, pour faire fuir la vision, le long du chemin de plaine. Dès qu'il est parti, la mère Mathieu enfile la venelle, les fuseaux de ses jambes emmanchées dans de grands sabots tricotent le long des haies. Elle arrive au bout du verger et regarde, le menton sur la claie. Si elle ne voit personne, elle appelle à voix étouffée « Georges, Georges !» Un gamin de 5 ans, barbouillé, jambes nues, bronzé et solide, apparaît, le nez entre deux lames de palissade. « Ta mère n'est pas là ?» interroge la vieille. L'enfant secoue la tête. « Alors, viens un peu !» La vieille entr'ouvre la barrière. Du coin de son mouchoir, elle débarbouille le petit qui grimace et qui souffle. Elle rattache une bretelle, arrange les cheveux. Ensuite, elle tire de sa poche quelques noix, un morceau de sucre enroulé dans un bout de journal. Georges tend la main, mais il lui faut payer d'avance. La vieille présente sa joue qu'il embrasse sans entrain, car elle le serre, à tel point qu'il en est un peu étouffé. Le père Mathieu est rentré ce soir, plus affaissé et plus gênant que d'habitude. Il couve la cendre. Les pieds sur les chenets, il regarde la neige qui tombe et parsème de fleurs la terre morte. On est en janvier. La porte s'ouvre. Il n'est pas poli de frapper à la campagne. La cuisine hospitalière doit s'ouvrir sans qu'on ait à le permettre et l'on n'a rien à cacher. « Tiens, c'est toi ! Comme te voilà sacrément beau !»« C'est le petit à la fleuriotte, » dit la mère. « Il vient chercher ses étrennes. » L'enfant, intimidé par ce vieux osseux qui le regarde, fait oui de la tête, saisit les deux œufs que lui donne la vieille et tourne le dos pour sortir. « C'est le petit à la fleuriotte, » répète la femme. « je vois, comment qu'on t'appelle ?»« Georges. » C'était le nom du fils aîné. Le vieux paysan resta immobile un moment, puis il tira sa jambe, saisit son porte-monnaie, chercha et tendit une pièce d'argent à l'enfant. « Tiens, c'est pour toi. Pas pour ta mère, surtout. T'entends ?» Le gosse affirma de la tête, vigoureusement, puis il s'enfuit. « Il est fort pour son âge, » dit la mère. « C'est un beau petiot. » Le vieux soupira et son grondement rauque sortit de sa poitrine comme un râle. Enhardie par la générosité sans exemple de son homme, la mère Mathieu se mit à parler, étonnée de s'entendre. « Si on le prenait avec nous, c'est tout le portrait de notre pauvre garçon.
Mais le vieux s'était levé. Cette traînée, cette saleté qui a empêché mon garçon de se marier. Il serait peut-être mort tout de même, et encore, on ne sait pas si ça n'aurait pas changé quelque chose. Mais au moins, j'aurais des petits-enfants pour le remplacer. Il ne s'agit pas de la mère. La fleuriotte, elle, peut rester où elle est. Rien que le petit. La mère, qu'elle aille se faire pendre ailleurs si elle veut. Elle riait d'un gros rire excessif, affectant pour complaire à son homme un mépris plus grand que de raison pour la fille-mère. Il ne répondit pas et sortit, la tête congestionnée, pour se rafraîchir à l'air du dehors. Mais la vieille revint chaque jour à cette idée, avec l'obstination des femmes qui finissent par imposer leurs idées à force d'y revenir sans en avoir l'air. La fleuriotte pourrait quitter le pays, le petit resterait avec eux. Ça ne serait pas mal vu dans le village. C'est tout de même l'enfant de notre gars. On ne peut pas le renier, et patati et patata. Un jour, ce fut chose admise, car le vieux la laissa dire sans protester. Mais ce n'était que demi-besogne. Il fallait décider la fleuriotte, qui faisait un tas d'histoires, comme si c'était une rente pour elle que ce mioche à nourrir. La mère Mathieu, cependant, sut la convaincre par des mots qu'elle ne répéta sûrement pas à son âme, car elle amena le petit Georges un dimanche après-midi. La mère suivait à 10 pas. Mathieu aperçut celle-ci et tout de suite s'emporta. « Qui que je revois ici? Veux-tu démarrer de là, toi ?» Le vieux, les yeux exorbités, la taille redressée, marchait sur la fleuriotte. « Tais-toi, voyons, Mathieu, tais-toi !» lui disait la vieille. Et elle faisait des signes désespérés à la mère, en haussant les épaules, comme si son homme étant fou, elle eut pitié de lui. « C'est moi, le maître ici, et on n'y entre que si je veux. C'est-y à moi, tout ça? C'est-y moi qui commande ?» Et il montrait les vastes bâtiments qui enserraient sa vie chétive et rabougrie. « Mais puisqu'elle s'en va, qu'on te dit !» cria la mère, plus fort que lui. La langue du vieux s'arrêta dans sa bouche ouverte. Il poussa un grognement, puis d'un seul coup, tourna le dos, et, comme à son habitude, pour finir la discussion, il s'en alla vers les champs. La fleuriotte se précipita sur l'enfant en l'embrassant. « C'est pour toi, mon petit, c'est pour toi, ne pleure pas !» Et elle le jeta dans les bras de la mère Mathieu. « Quoi dire? Elle sait bien qu'elle n'est rien, qu'elle ne peut pas répondre à cet homme riche et puissant. Et elle sait aussi qu'il n'en a pas pour longtemps, et que tout cela, ces bâtiments, cette terre, ça sera au petit Georges. À cette pensée, elle s'attendrit et l'embrasse plus fort. Il lui en devient plus cher. Cependant, il faut partir. La fleuriotte fait 4 pas. L'enfant tire sur le bras de sa grand-mère comme un chien sur sa corde. « Maman, maman !» Elle revient l'embrasser. « Faudrait mieux partir tout de suite. Il ne vous verrait plus, il n'y penserait plus. C'est comme quand on sèvre un annelet. » Alors, les yeux et le nez gonflés sous sa capeline bleue, la fleuriotte regarde le petit qui se débat dans les bras de la mère Mathieu, puis elle se raidit et s'enfuit par la venelle, tandis que l'enfant qui s'entraînait à crier hurlait trépigne. La mère Mathieu le ramena à la maison, où elle l'amignota, le berça dans ses bras, si bien que le petit s'endormit bientôt. Quand le vieux rentra, l'enfant reposait sur le lit. Sa mère le lui montra. « C'est notre gars, » dit-elle. Alors il hocha la tête, regarda un instant cette petite chose vivante, anéantie par le sommeil, mais où revivait son fils, sa race. Il tâta doucement la chair ronde et ferme des bras. Puis il s'en alla vers la margelle du puits, qu'il se mit à consolider, et, regardant le toit qui s'affaissait, il dit à sa femme « Je vais voir le couvreux, faut pas laisser tomber les bâtiments. » Gabriel Morière, voisinage. Landry et Bécard étaient mal ensemble, très mal, au point qu'ils ne s'injuriaient plus et qu'ils affectaient de ne pas se connaître. La figure de Landry ne rencontrait jamais que le dos rond de Bécard, tandis que Bécard passait ses yeux sur Landry comme s'il regardait au travers. Une telle ignorance l'un de l'autre chez deux voisins est plus grave qu'une dispute. Cela datait de 3 ou 4 ans avant la guerre. Landry était le Richard du pays, celui dont les hautes granges encerclent une basse-cour mouvante, des écuries à la chaude haleine, de larges fumiers, signe de prospérité. Confiant dans la force du sol qui alimentait sa vie comme une source généreuse,
il dépensait aisément et il aimait à soulever un peu de poussière autour de lui. Bécart était entré dans le monde par la porte de hasard. Journalier, pêcheur, braconnier, gars de batterie, il avait un jour, au milieu d'autres sottises, commis celle de se marier. Sa femme répandit au long des années des séquelles d'enfants. Dans une méchante cabane, tous ces mal lavés insultaient maintenant, par leurs cris et leurs guenilles, la demeure soignée et les nobles grilles de la ferme. Il n'y avait plus de sécurité pour les prunes, et si les haies permettaient parfois aux poules de s'égarer chez Bécart, elles les empêchaient toujours d'en revenir. C'était une maison de désordre et de pillage, avec des filles en cheveux, criardes sur le seuil, et des nichées d'enfants sales. À certains moments, il en sortait de toutes les ouvertures, à moitié nu, qui se tordaient comme des vers. On ne distinguait pas ceux qu'avaient ramenés les filles de ceux qui appartenaient au père. « C'est honteux, monsieur, » disait Landry. Jusqu'à la guerre, Bécart, miséreux, déguenillé, resta soumis et humble comme un chien galeux. Il travaillait assez souvent à la ferme, et pour cette raison, Landry tolérait cette tâche à côté de sa prospérité. Mais Landry perdit son garçon. Il ne lui resta qu'une fille. Ses domestiques partirent un à un. La main-d'œuvre devint rare et fut bientôt introuvable. Peu à peu, la ferme déclina. Bien des champs restèrent incultes. La maison prit une livrée de maladies, avec des plaques d'herbe dans la cour, des ulcères au mur, des toits qui desquamaient. Landry, qui n'avait songé qu'à agrandir sa terre, et qui avait toujours dépensé largement, se trouvait embarrassé, comme dans des habits trop vastes qu'on ne peut remplir. Par contre, la nichée de Bécart, 5 filles, 2 garçons, s'en va tous les jours à la ville, aux usines de bonneterie, qui, par les tentacules ferroviaires, sucent la vitalité du pays. On y gagne gros. Une brusque prospérité gonfle comme une tirelire la cabane misérable. 100 francs par jour y tombent. Bécart vit maintenant en roi fainéant. Il traîne les cafés. Tout le monde niche pêle-mêle comme autrefois. Des robes de jersey de soie sont accrochées dans des appentis sordides. On n'en est pas encore au besoin de confort, mais seulement à la satisfaction de l'appétit. On mange de fins poulets, de larges rôtis rapportés de la ville. Toute la journée, le café chauffe et le feu flambe. La femme de Bécart passe son temps à élargir la culotte de son homme. À côté, en revanche, la vie s'est rétrécie. Seul avec sa fille et un seul domestique, Simon, un quadragénaire, depuis l'enfance à la ferme, et pour ainsi dire immeuble par destination, Landry cultive son bien, mais il se fait vieux. Il n'a plus l'ardeur d'autrefois. Il n'achète pas de machine. Il abandonne les foires du chef-lieu. Il tourne dans sa vieille routine comme un cheval usé. Alors, d'un côté, le trio d'esclaves du sol, cette fille de 29 ans qui menace de sécher sur pied comme un pavot. En face, des gars en chemise de cellulaire, cigarette au bec, des filles parées et chignonnées qui vont au bal. Bécart qui bat sa femme, politicaille, et réclame le partage des biens, c'est tout ce qu'il comprend au communisme. Comment voulez-vous qu'on ne se haïsse pas? Deux castes se heurtent, le terrien âpre et taciturne, l'ouvrier gouailleur et insouciant. L'un décline, l'autre monte. C'est donc la guerre. La Maria, la fille de Landry, est tout fielle. Elle sent sa trentaine tournée au vinaigre. Elle la déteste, cette nichée qui produit et reproduit. Cette promiscuité, cette vie débridée, cet accent faubourdien, ces mots inconnus, ses faces claires à côté de sa peau qui se basane. Est-ce qu'on ne pourrait pas se débarrasser de cette vermine? Landry a cru jouer un bon tour à son voisin. Il a échangé un champ, un magnifique champ, pour la misérable bicoque, et, devenu le propriétaire de Bécart, il lui a signifié son congé. Malheur, toute la chicane s'est hérissée contre lui. Moratoire, délai, prorogation, que sais-je. Il reste là, impuissant, devant son locataire qui ricane. Bécart pourrait sans peine trouver un autre logis. Landry lui en a fait proposer un, à l'autre bout du pays, meilleur et pas plus cher. Il a refusé en riant. « Non, non, je tiens à rester dans le quartier bourgeois. » Et il nargue Landry, qui hausse le dos et qui, poursuivi par les rires et les farces des jeunes galvaudeux, se mine le tempérament de colère rentrée. Cela aurait peut-être fini par un éclat Mais les choses se sont arrangées. L'aîné des Bécaires, qui est Faro, avec son linge blanc, c'est d'ailleurs le mieux de la bande, eh bien, la Maria le regardait. Il faut dire qu'elle a manqué deux mariages par son refus de quitter la ferme. Et au pays, il n'y a plus de marieux. Ils sont trop jeunes, les autres ne sont pas revenus de la guerre. Comment a-t-elle, dans ses sentiments intimes, séparé du reste de la famille, ce bonnetier robuste et avantageux, à l'œil vif sous sa casquette, au petit bedon d'ouvrier aisé? C'est là le secret des filles et celui des amours. Mais pour rien au monde, elle n'avouerait que si elle a des envies de le gifler, de l'écraser comme un grillon, c'est qu'elle l'aime, c'est qu'elle voudrait. Mais ne voilà-t-il pas qu'elle apprend que cette Becquerel de Joséphine, la fille du facteur, une camarade d'école, va épouser Bécard. Du chagrin, du dépit, de la colère, Maria ne sait pas distinguer tout cela dans la marmite haineuse qui bout dans sa tête. Sa rancune s'exaspère comme une brûlure d'huile. Ah, rira bien, qui rira le dernier? Ils n'ont pas voulu quitter la cabane. Ils ont cherché de mauvaises raisons. Ils ont fait agir le député. Eh bien, ils partiront quand même. Cette verrue sur la face de la ferme disparaîtra. Ainsi en a décidé le front rigide de Maria. Depuis ce moment-là, elle se sent calmée, dominatrice. Aussi, un soir de nuée, a-t-elle, par les derrières, gagné la barbe du toit de chaume des Bécard. Il est nuit. Tout à coup, un formidable coup de tonnerre retentit. Crac ! Dans la paille, elle introduit une allumette, disons, enflammée, attend une seconde, puis s'enfuit. Après tout, c'est à moi. J'ai bien le droit, pense-t-elle en sautant la haie. Le toit prend, l'orage pousse la flamme, et voici que de la fenêtre de sa chambre, Maria, le cœur bondissant, voit le repère tout rouge et craquant comme une javelle dans l'âtre, tandis que la vermine s'enfuit, emportant les meubles, les robes de soie. Ha ha ! Les robes de soie et les souliers Louis XV. Elle rit tout haut en y pensant. Puis elle descend, un seau plein à la main, pour les cas où des étincelles tomberaient dans la cour. En un quart d'heure, tout est fini. Le lendemain, elle fit le tour des décombres noircis. « Il va falloir déblayer ça tout de suite, » dit-elle. Elle rentra, triomphante, dans sa ferme qui s'élevait maintenant fière, nue et seule dans la plaine. Elle en examina les bâtiments d'un œil sévère. « Il faut une poigne d'hommes dans la maison. Le père laisse tout aller. » Dans la cuisine, elle regarda le domestique attablé, de 15 ans plus vieux qu'elle, silencieux. C'était un bon ouvrier solide et qui prenait l'intérêt de la maison. Une décision durcit le front de Maria. « Mieux vaut lui que rien, » dit-elle à mi-voix. « Ça fera un maître pour le bien. » Pesant, le valet mangeait, ignorant sa haute destinée.